J'espère que vous êtes tous disponibles à écouter ce que j'ai à dire ce matin. Enfin, ce que j'ai à dire. À la limite, tout le monde s'en moque, hein, mais ce que Dieu a à dire, à nous dire au travers de sa parole. Alors, nous sommes quittés la semaine dernière en nous rappelant une chose importante, c'est que Dieu est un artisan qui nous modelait et nous faisait grandir spirituellement chacun de manière différente pour la bonne raison que nous sommes, et vous l'aurez sans doute remarqué, tous différents, ne fût-ce qu'à travers la longueur de nos cheveux. Et que la croissance spirituelle apparaissait lorsque nous commencions petit à petit à vouloir faire, à désirer faire ce que nous devions faire pour plaire à Dieu. Donc comme je vous l'avais annoncé, j'aimerais que nous réfléchissions aujourd'hui sur une dimension importante de la vie spirituelle, à savoir nous-mêmes. On va donc être un petit peu égocentrique ce matin, mais en fin de parcours, en fin de message, j'essaierai de rééquilibrer la chose pour que nous ne pensions pas que nous sommes le nombril du monde. Le nombril du monde, c'est Dieu. Voilà. Nous allons donc tenter de nous arrêter sur notre personnalité, ce qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Dieu en tient compte bien plus que nous ne le pensons, puisqu'il veut nous changer, et à l'analyse, il est évident que cela entre en ligne de compte. Prenez certains hommes, par exemple, du Nouveau Testament, certains chrétiens du Nouveau Testament. Je pense qu'on peut dire objectivement et sans risquer de se tromper qu'il n'y avait pas plus différent que Pierre et Paul, pas plus éloigné l'un de l'autre que Jacques, le demi-frère de Jésus, et par exemple Jean, l'apôtre, le disciple que Jésus aimait. Et pourtant, Dieu a fait de ces quatre hommes des hommes matures spirituellement et conduits par son Esprit Saint. Je suppose que vous serez d'accord avec moi sur cette analyse. De plus, le roi David, le grand roi David, fait déjà allusion à cette dimension que nous sommes uniques aux yeux de Dieu dans le très beau psaume 139. Alors on va en lire trois versets. Éternel, tu me sondes, tu m'examines et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Pénétrez-vous de ce que dit ce psaume. Il sait Dieu quand je me lève et quand je m'assieds. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Et plus loin, le psalmiste dira encore, la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu sais ce que je vais dire. Posons-nous donc une première question, quel est mon tempérament? Il y a bien longtemps déjà que des spécialistes ont tenté de classer les différents types de personnalités et les ont répertoriés sous un certain angle. Et c'est intéressant, me semble-t-il. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais globalement, c'est intéressant. Alors, êtes-vous introverti ou extraverti? Fonctionnez-vous sur base de faits ou êtes-vous plutôt intuitif? Êtes-vous quelqu'un qui analyse ou quelqu'un qui ressent les choses? Êtes-vous quelqu'un d'ordonné dans votre façon de penser ou êtes-vous quelqu'un de flexible, de spontané? Alors, personnellement, j'ai fait l'exercice pour moi-même. Je nuancerai ça au cours de route et vous comprendrez pourquoi, mais à la base. En tout cas, même, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vais dire, si vous me connaissez un petit peu. Donc, personnellement, je suis un EIRS. Un extraverti intuitif dans le ressenti et spontané, mais qui pense quand même. Parce que par définition, quand on est spontané, on a tendance à faire, à agir, avant de réfléchir. Donc, et cela, il est important de le noter dès à présent. Le fait d'être extraverti aujourd'hui ne m'empêche pas d'être introverti à la base, pas plus qu'être spontané ne m'empêche d'être beaucoup plus réfléchi aujourd'hui. Donc il y a eu du changement. Bien sûr. Il n'était pas là au départ, les enfants, ça je vous le dis. Donc, c'est un encourageant. Donc chaque être humain possède donc un tempérament, une sorte de marque de fabrique, ce qui signifie que certaines pratiques vous viendront plus naturellement que d'autres, et certains défauts liés à votre personnalité aussi, bien entendu. Donc ces différents tempéraments ne sont pas meilleurs ou pires, ils sont simplement différents. Et si le tempérament de quelqu'un d'autre vous dérange, c'est simplement parce qu'il n'a pas les mêmes défauts que vous, ou parfois même qu'il a les mêmes que vous. Et n'oubliez pas que le jugement, juger les autres, ce que Dieu déteste, juger les autres, ça revient en fait à reprocher à l'autre de ne pas être nous. Ok ? En tout cas, c'est ma définition du jugement. Donc, pas de tempérament pire ou meilleur dans l'absolu aux yeux de Dieu, des tempéraments simplement différents. Même si après de nombreuses recherches personnelles sur la question, j'ai découvert, incroyable, hein, que Jésus était lui aussi un EIRS comme moi. Vous vous rendez compte ? Je plaisante, hein, bien entendu. Donc tout le monde a besoin de passer du temps dans la solitude avec Dieu. Il y a ceux qui n'en sont pas encore conscients et pourtant ils en ont besoin. Mais si vous êtes introverti, vous aurez une plus grande capacité à vous retirer spontanément du bruit, de la foule et de ce que vous avez par exemple à faire, afin d'être seul et au calme. Je suis devenu extraverti et pourtant j'aime le silence et les retraites monastiques. On se tait totalement, même quand on mange. Ça, c'est peut-être mieux, parce que comme ça, on mange pas la, on ne parle pas la bouche pleine, parce que ça, c'est pas bien. Comme ça. Ce qui signifie que même si ce trait de caractère ne fait pas partie à la base de mon ADN, de mon outillage, Dieu peut l'installer en cours de route, parce que tout simplement, il sait que le silence est nécessaire à la croissance spirituelle et des temps de retraite où on se déconnecte totalement de tout ce qui n'est pas Dieu aussi. Je rappellerai quand même que Jésus avait des journées à la louche de 20 heures, au moins, il dormait peut-être 4-5 heures par nuit. Quand vous lisez entre autres l'évangile de Marc, qui est fort sur la temporalité, ça n'empêchait pas, après 3 heures de sommeil ou 4 heures de sommeil, avant que le soleil ne se lève, de se lever sans faire de bruit et de se retirer, nous dit Marc entre autres, dans un lieu désert pour y prier. Même Jésus, hein, il s'isolait dans le silence. Hein. Et nous n'aurions pas besoin de ça. Étrange, hein ? Une chose importante, c'est que les circonstances de notre vie ne collaborent jamais entre elles pour produire, par exemple, une journée sans activité ou événement. Si vous voulez passer une journée seule avec Dieu, il va falloir l'organiser. Il va falloir décider de le faire. Il va falloir le mettre dans votre agenda. Vous allez donc devoir vouloir bloquer du temps pour Dieu. Nous aurons donc toujours à choisir ce qui va nous faire grandir. Ce que je viens de dire vous paraît, concernant le silence, par exemple, vous paraît peut-être totalement fou, et rien que l'idée de vous retrouver un seul jour dans le silence et la solitude, vous êtes totalement insupportable. Alors commencez par essayer une heure, quoi, ou une demi-heure. Et n'oubliez pas que tout ça ne concerne pas le temps que vous prenez, mais l'Esprit Saint. Donc la liberté, rappelez-vous, là où l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Si vous êtes un introverti et que vous aimez la solitude, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes plus spirituel que votre épouse extravertie, pour qui, par exemple, le contact avec les gens est plus simple et plus facile que vos contacts à vous. Et on ne sait pas, parce que vous passez beaucoup de temps dans le silence avec Dieu, à dire que votre épouse ou vos amis sont en dessous de tout et qu'ils sont loin de Dieu, etc., etc., etc. Donc ne tombez pas dans le jugement. Ils sont simplement différents de vous. Un homme que je connais est extraverti. Je ne parle pas de moi là, je vous rassure. Hein. Un homme que je connais est extraverti, il ressent profondément les choses. Il ne se sent jamais plus immergé dans le courant de l'Esprit Saint que lorsqu'il se trouve plongé dans les problèmes et les luttes d'une autre personne. Ça existe. Alors, et de manière très ironique peut-être, c'est dans ces moments-là où il essaie d'aider les gens qu'il guérit son âme en même temps. Il ressent donc le besoin de planifier ce genre de rencontre quasi toutes les semaines. Certaines personnes sont très ordonnées et ne supportent pas que quelque chose dépasse. On en connaît tous des comme ça, je pense. Et si c'est votre cas, vous aimez probablement les listes de prières dont on a un peu parlé dimanche passé. Vous savez, des listes où on met tous les noms possibles et imaginables de nos connaissances, de nos frères et sœurs en Christ, et on va prier pour ces gens tous les jours de notre vie, à la même heure, de manière très spontanée, non, plutôt de manière très ordonnée, très rigoureuse, sans jamais déroger à la règle, parce que nous sommes câblés comme ça. Et il en faut. Ça fait par exemple des intercesseurs, ce que la Bible appelle des intercesseurs. Il est donc souvent probable que Dieu donne le don, parce que c'est un don spirituel, d'intercession à des gens qui déjà à la base sont câblés de manière rigoureuse. Mais il peut choisir aussi, pour manifester sa gloire et sa capacité de changement, faire la même chose avec quelqu'un de spontané ou très artiste. pour qui la rigueur ne fait pas partie de son monde, et pourtant il va en faire un intercesseur aussi, libre à lui, hein, donc n'enfermez rien. Mais... Donc ce qui est important de comprendre, c'est que, par exemple, si vous tentez de tenir des listes de prières, on va être pratique, hein, et que vous avez échoué à le faire, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu. Parce que malheureusement, on est tellement tordu, et l'ennemi de nos âmes aime tellement nous susurrer ça dans nos oreilles, que nous sommes nuls et en dessous de tout, et que quand nous échouons dans ce genre de pratique, c'est que nous n'aimons pas véritablement Dieu. Ce n'est pas que vous n'aimez pas Dieu si vous échouez à tenir vos listes de prières. C'est que vous n'êtes tout simplement pas un faiseur de listes. Ce n'est pas votre chemin. Voilà. C'est un autre chemin que vous devrez suivre pour prendre soin de vos frères et sœurs et pour prier pour eux, mais ce n'est pas celui-là. Dieu désire vous remplir de sa vie. Mais vous ne pourrez pas être rempli si vous vous engagez dans des activités qui vous vident et qui vous épuisent parce qu'elles ne vous correspondent pas du tout. Par exemple, un introverti n'est pas d'accord, n'est pas d'abord, je vais peut-être repréciser ça, parce que quand on dit extraverti, introverti, on dit ben, un introverti c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, et un extraverti c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Mais en fait, un introverti n'est pas d'abord quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, mais quelqu'un qui est vidé par les relations sociales. Passer du temps avec les gens vide l'introverti. Il aura donc besoin, pour répondre à ça, parce qu'il est quand même appelé par Dieu à être en relation profonde avec des êtres humains, il va devoir passer plus de temps que d'autres dans le silence pour être rechargé à nouveau. Un extraverti, par contre, n'est pas d'abord quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un qui recharge ses batteries au travers des relations sociales. Lui, les gens l'énergisent. Ça le remplit, les gens. Comprenez ? Donc, on peut être un peu taiseux et extraverti et très volubile et introverti. En fait, à la base, ça va encore vous faire rire, moi je suis un introverti. Mais de par mon appel pastoral à m'occuper des autres, et encore une fois, comme je dis souvent, quand on me téléphone, c'est rarement pour m'inviter à un dîner d'anniversaire, mais souvent parce que les choses vont mal. Je ne vois que, et c'est pas grave, hein, c'est comme ça, et merci Seigneur, quel beau ministère, c'est le plus beau pour moi. Mais je prends 99% de mon temps, c'est je prends du temps avec les gens qui ont des blessures, des problèmes, qui sont vraiment pas bien. Donc ces relations sont merveilleuses, mais elles me vident. Elles ne m'énergisent pas, donc je dois me remplir ailleurs pour être capable encore de donner. Vous comprenez ? Donc les gens spontanés sont aussi capables d'aimer que les personnes bien organisées, ils sont juste un petit peu plus bordéliques. Deuxième question, quel est mon chemin ? Gary Thomas, un auteur chrétien, a exprimé dans un de ses écrits que nous possédions tous ce qu'il appelle des, je trouve cette expression très jolie, des chemins sanctifiés ou des chemins de sanctification. Donc des chemins qui nous viennent naturellement et qui nous aident à faire l'expérience de la présence de Dieu. Okay ? Par exemple, parce que l'un de mes chemins était intellectuel, je peux me sentir attiré profondément par Dieu au travers d'un livre qui endormirait quelqu'un d'autre après 5 minutes. Et quand je dis 5 minutes, je suis gentil. En revanche, le chemin d'un autre, ce sera peut-être l'hyperactivité. Et cette personne sera intensément consciente de la présence de Dieu au travers d'un projet qui donnera à quelqu'un d'autre l'envie de s'enfuir en courant. Donc chaque fois que nous constatons ça, ces appels de Dieu dans la vie des autres, que nous n'avons pas, nous, et que nous ne sommes pas intéressés par ce genre de choses, il ne faut pas se sentir abaissé, il ne faut pas être envieux, il faut simplement remercier Dieu de ce que c'est le chemin de mon frère ou de ma sœur qu'il s'épanouit et grandit spirituellement dans sa relation à Dieu à travers ce chemin, même si ce n'est pas le mien. Alors nous reconnaîtrons quels sont nos chemins, parce que c'est important de commencer à comprendre quels sont nos chemins, lorsque nous nous rendrons compte que nous changeons en les empruntant. Il y a des types de pratiques qui nous pousse au changement, ou parce que nous prendrons des décisions clés lorsque nous serons engagés dans une activité particulière. Je vais prendre un exemple bateau. Hein. Certaines personnes se connectent mieux à Dieu à travers la nature. Alors moi, j'adore ça me promener, mais je ne me connecte pas spécialement plus à Dieu parce que je regarde un arbre en fleurs. Quoi. Si ça me permet de redécouvrir et de réapprofondir mon côté contemplatif, ça me reconnecte à la notion de beau, de beauté simplement, que Dieu met dans la nature parce qu'on peut s'habituer. Hein. Oh, t'as vu la belle fleur ? Ouais, ben c'est une fleur, quoi. Non, mais vraiment, hein. Et t'as vu le bel arbre ? Ouais, tu vas chaque fois. Et tous les arbres, tu vas t'arrêter pour t'extasier. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'étais au Cerf Royal avec mon oncle Francis d'Angleterre, et lui, c'est un Anglais, quoi. Donc, lui, il avait un jardin comme un terrain de foot. Hein, donc, il dit, oh, on va aller, Yves, le visiter, le Cerf Royal. J'ai dit, ah, on va encore passer une bonne journée, parce que moi, j'en avais rien à soit. Et on arrive là, on est à peine rentré, il y a un oranger. 10 mètres après l'entrée. Mais moi, je savais que ça allait durer 5 plombes, hein, cette visite des cerfs. Et les cerfs tropicales, il faisait 42 degrés et 96% d'humidité. Hein. Voilà l'oranger et voilà mon anglais. Oh, nice. Oh, beautiful. Il prend. C'est pas possible. J'ai dit, tu vas t'arrêter comme ça à chaque arbre. Et je me rappelle ce qu'il m'a dit. Tu n'es plus habitué à voir la beauté, Yves. Quand un anglais vous dit que vous ne voyez pas la beauté, il faut commencer à vous inquiéter. Donc, certains d'entre nous se connectent mieux à Dieu à travers la nature. Les intellectuels, ça existe, sentent leur cœur se remplir de l'Esprit de Dieu lorsque leur esprit est sollicité par des pensées profondes. Il faut une boussole pour comprendre ce que le gars a voulu écrire. J'ai fait cette expérience encore dans une réunion avec la Fraternité des Veilleurs. On devait partager des livres qui nous avaient un peu bousculés et changés, etc. J'en avais plusieurs à soumettre à mes frères et sœurs veilleurs. Et j'ai dit, voilà, je vous cite un passage d'un de ces livres. C'est une des plus belles choses que j'ai écrites sur la souffrance de Dieu, que j'ai lu, pardon. Et je lis ce passage, et ils me regardent tous. Et je sens une prière intérieure monter du cœur de mes frères qui se disent, va prier pour lui parce qu'il est de plus en plus cinglé. On n'a rien compris à cette phrase, quoi. Là, je me suis senti profondément seul. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est pas que tu es seul, c'est que c'est pas leur chemin. J'ai mis des années à comprendre ça. Donc voilà. D'autres encore sentent que l'Esprit Saint est plus présent en eux lorsqu'ils servent les autres. Et d'autres se connectent dans la solitude de la contemplation et d'autres dans l'interaction avec leurs amis. D'autres enfin lorsqu'ils louent Dieu par le chant, ça s'appelle des musiciens, quoi. Voilà. Qui est un de mes chemins aussi, la musique, hein, bien sûr, même si je ne l'emprunte plus assez. Alors, chemin sanctifié, il y en a d'autres, hein, j'ai essayé de... Le naturaliste, c'est ne pas confondre avec le naturisme. Important. Non, mais que vous n'ayez pas, après, pendant les prochaines vacances, et que vous dites, ah, mais c'est mon pasteur qui est venu me tenir ici. Non, mais je vous connais. Hein. Donc, le naturaliste... Encore un truc, ma petite femme va couper au montage. Trouve Dieu. Non, ça va ? Merci. Parce que c'est ma censure. Hein. C'est l'appel d'Isabelle. C'est son don. Voilà. Elle a du travail. Tous les jours. Hein. Le naturaliste trouve Dieu dans la nature. L'ascétique, c'est pas un produit chimique, est attiré par les disciplines et les règles. Le traditionnaliste aime les liturgies. L'activiste se sent spirituellement vivant en s'engageant pour une cause. Le serviteur rencontre Dieu en servant. Le sensitif, ressent Dieu au travers de ses 5 sens. Là, on n'est pas loin du mysticisme, donc il faut faire attention. Hein. Les sensitifs, faites attention. Vous ne verrez jamais Dieu avec ses yeux-là et vous n'entendrez jamais avec ses oreilles-là. Faites attention, si c'est votre cas. Le contemplatif est attiré par la réflexion et la prière solitaire. L'intellectuel aime Dieu en apprenant. Si vous voulez savoir quel est votre chemin, il va falloir les emprunter. Il va falloir tous les emprunter. D'accord ? Parce qu'autrement, vous risquez de ne pas trouver le vôtre. Ou les vôtres, parce que vous pouvez cumuler. Et dans mon expérience, vous allez cumuler. Moi, je suis plusieurs de ces choses-là, en fait. Et je n'ai que 2 jambes, et pourtant je suis sur plusieurs chemins. Ça, c'est le miracle de la vie spirituelle. Ça ne marche pas comme la vie physique. on peut être sur plusieurs chemins en même temps, avec Dieu. Donc, si je ne me reconnais dans aucun de ces chemins, c'est possible, hein, c'est que je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je n'y vois aucun rapport avec la présence, aussi, avec la présence de Dieu, c'est que j'ignore qu'il se sert de ces choses pour être proche de moi. Je ne le sais pas encore, en tout cas. Donc, il est important de se familiariser quelque peu avec chacun de ces chemins. Mais encore une fois, je pense qu'à l'expérience aidant, vous allez découvrir que l'un, un, deux, trois, voire quatre de ces chemins vous correspondent. Donc ne vous dites pas, il faut que j'en trouve un et puis c'est bon, vous êtes probablement appelé à être sur plusieurs chemins en même temps. Moi, je suis un contemplatif, ben, je l'ai dit, hein, je m'occupe quand même beaucoup des autres, je suis un contemplatif, mais je pense aussi être quelque part un peu du type intellectuel, donc sans être un intellectuel, je précise, hein, je ne me considère pas comme un intellectuel, mais j'apprends à aimer Dieu, j'approfondis ma connaissance et mon amour de Dieu à travers, encore une fois, des livres qui sont vendus à 5 exemplaires dans le monde, quoi. Donc, vous savez peut-être que l'on a fait de nombreuses découvertes concernant les différentes formes d'intelligence et leurs méthodes d'apprentissage spécifiques. Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui possède une intelligence dite imaginative aura besoin, le terme est clair, d'imaginer la matière qu'il étudie pour la mémoriser et devra en plus s'attacher à ce que quelque chose lui permette en permanence d'alimenter son imaginaire. Afin de quoi ? Afin de pouvoir se concentrer. Donc ces personnes en étudiant devront par exemple écouter de la musique en même temps pour optimiser l'assimilation. Donc je vous laisse réfléchir au nombre d'enfants et de jeunes que l'on a forcés au silence pour étudier, alors que le silence les déconcentrait et qu'ils avaient besoin d'entendre de la musique. Moi, mes parents, si j'avais dit « je mets de la musique pour étudier », ils m'auraient dit « pas à nous, hein. Tu coupes ta musique, hein, parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps ». Certains ont besoin des deux. Donc partant de là, un conseil spirituel que l'on pourrait donner à ces personnes dites imaginatives, ayant du mal à se concentrer dans la prière, par exemple, serait sans doute de leur dire d'écouter de la musique spirituelle, des cantiques, pendant leur temps de prière, ou encore de faire une balade de temps en temps, parce que le changement de décor, dans leur cas, est propice à la concentration. Ce que d'autres, parfois, constatent très simplement que ça les déconcentre. D'autres, ça va leur permettre de se concentrer. Donc cela nous amène à notre troisième question, quel est mon style d'apprentissage ? Alors, fort heureusement, la croissance spirituelle n'est pas réservée aux personnes qui aiment l'école. Nous serions mal. Parce que soyons clairs, à la louche, personne n'aime l'école. On se demande pourquoi. Par exemple, un homme est plutôt éveillé, proche de Dieu, a le désir d'être proche de Dieu, mais il déteste lire. Ça, il y en a des pléthores. Et ça signifie que le fait de lire ne l'aidera pas beaucoup dans sa croissance spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va lire énormément de livres. Il devra quand même lire la Bible. Donc, quelque part, Dieu va quand même devoir lui apprendre à lire. Et c'est ça, un des enjeux pour les jeunes générations qui viendront au Seigneur, c'est que beaucoup d'entre eux détesteront. Je ne vais même pas dire ne pas aimer, ils vont détester lire. Donc, cette personne dont je parle, qui n'aime pas forcément lire, a par contre de grandes dispositions pour grandir spirituellement, parce que nous avons, le Saint-Esprit aidant, tous ces mêmes dispositions à grandir. Mais il n'est tout simplement pas un lecteur. Et souvent, j'ai remarqué que ces personnes apprennent beaucoup en écoutant. Il apprend des échanges et des conversations, il apprend en écoutant des messages. Et certains peuvent encore, d'ailleurs, me citer ce que j'ai dit il y a des années. Moi, je ne m'en souviens plus. Je passe ma vie à dire des choses, moi, en fait. Mais ces personnes peuvent encore me rappeler des choses que j'ai dites il y a 30 ans. Mais cet homme devra, cette femme devra néanmoins apprendre à lire. D'autres apprennent, je l'ai dit, surtout en faisant. Alors, j'en connais qui, quand ils doivent monter un meuble, il y a le mode d'emploi, ils ne suivent pas le mode d'emploi et c'est fait exprès. Ils vont se tromper, mais ils trouvent ça marrant. Ils vont prendre deux fois plus de temps pour monter le meuble, ils vont apprendre en faisant. Donc si vous êtes marié, par exemple, à ce genre de spécimen, ne l'étranglez pas tout de suite. C'est peut-être un chemin, qui sait. Donc, cette personne qui monte des meubles sans suivre le mode d'emploi, c'est super, laissez-le faire, sauf si c'est lui qui est responsable de monter et de préparer votre parachute. Donc, pratiquement, pour ce genre de personne, être assis à l'église le dimanche matin, c'est important dans le sens où Dieu va lui parler, mais ce n'est pas spécialement de cette manière-là que Dieu lui parlera de plus. Il va devoir redébriefer après, dans un autre cadre, un groupe de discussion ou autre, pour s'entendre redire les choses. D'accord ? Au sein d'un couple, par exemple, vous pouvez avoir une femme qui grandit profondément dans sa vie spirituelle lorsqu'elle est en contact avec des informations enveloppées dans une approche artistique et émotionnelle ou en rapport avec des personnes. Alors que dans le même temps, le mari ressentira une émotion approximativement tous les 10 ans. Ça existe aussi, hein ? Tout simplement parce que les émotions profondes interfèrent avec sa manière d'apprendre. Nous avons donc tous une façon naturelle d'apprendre. Donc si quelqu'un lit la Bible plus que vous, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il ou qu'elle aime Dieu plus que vous. Il se peut juste qu'il aime ou qu'elle aime la lecture plus que vous, déjà. Et c'est un plus, hein, mais en attendant, ce n'est peut-être pas votre chemin prioritaire. Donc, je répète, essayez différents styles d'apprentissage et voyez lequel vous correspond le mieux, sans exclure les autres. Encore une fois, lire, mes amis, étudier la parole de Dieu, se mettre à son écoute, ça, vous n'y couperez pas. Si vous ne le faites pas, croissance, bulle. Parce que renouvellement de l'intelligence, inexistant. Vous n'entendrez jamais que votre voix, votre volonté, votre pensée en vous et jamais celle du Saint-Esprit. Parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit, c'est un potier, il a besoin de matière pour façonner votre être intérieur créé en Christ. S'il n'a pas cette matière qui est la parole de Dieu, il ne sait rien façonner du tout. Il a besoin que l'on lui donne des informations nouvelles, à savoir des informations révélées dans la vérité qui est la parole de Dieu. Il fallait que je le replace encore une fois, bien entendu. Donc, ne pas lire du tout n'est pas un style d'apprentissage, hein, mais bien le signe qu'il n'y a pas d'apprentissage du tout. Et on passe, quelle transition, hein, au style d'apprentissage. Voilà. Alors, il y a l'auditif. Ça ne va pas vous surprendre, qui apprend mieux par l'écoute. Il y a le tactile, alors ça fait peur, mais c'est simplement quelqu'un qui apprend mieux en faisant. Il y a l'oral, qui apprend mieux en échangeant. Le social, il apprend mieux en groupe. Le logique, il apprend mieux dans un processus linéaire. Et l'imaginatif, il apprend mieux par les arts, les histoires et les images. Donc, expérience, c'est fou, comme beaucoup d'entre vous retiennent beaucoup plus de concepts théologiques et bibliques. Quand je les image, je développe pendant 3 heures, j'en ai une image de, mais c'est pas méchamment que j'ai ça, mais c'est bien, j'en ai une image de style première primaire, j'ai tout compris. Amen. Donc, ok, donc repasser ça, etc. 4e question. Quel est, ça c'est trié, quel est mon péché signature? Ah oui, bah, oui. Parce que vous êtes unique, et uniquement vous, sauf si vous êtes, comment on appelle ça encore en psychiatrie, personnalité multiple. Ça porte un nom que j'oublie, peu importe. Comme vous êtes unique, vous vous battez également avec une gamme unique de tentations, et par définition de péché. Personne ne pêche exactement comme vous. Je dis bien exactement, hein. Nous sommes tous soumis plus ou moins aux mêmes tentations, mais on n'y répond pas tous de la même manière et on ne tombe pas tous dans les mêmes panneaux. En fait, les péchés qui vous posent le plus de problèmes sont en fait profondément en relation avec vos plus grands dons et vos plus grands centres d'intérêt. Ils sont liés profondément à votre personnalité. Alors, je vais donner quelques exemples pour éclairer ma pensée. Par exemple, ceux qui sont des leaders nés, ça existe. Des gens qui partent à gauche et tout le monde va à gauche. Ça s'appelle des leaders. Bien, ceux qui sont des leaders nés seront tentés d'utiliser et de manipuler les autres. Vous Rappelez-vous cette scène, enfin cette scène, elle est terrible cette scène, elle nous fait rire, c'est risible, mais en même temps elle est dramatique. Jésus annonce pour la troisième fois à ses disciples qu'il va mourir. Réaction des disciples, c'est qui sera le plus grand quand il sera plus là? Et là, Jésus, il sait très bien ce qu'il pense. Et ils sont un peu honteux de penser ça, mais ils le pensent. Ils sont des hommes, quoi. Et Jésus leur dit, écoutez, dans le monde, c'est pyramidal. Il y a des gens au-dessus qui écrabouillent ceux qui sont en dessous. Dans mon église, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous voulez le plus grand, le leader né, le leader, le gars qui dirige les autres et qui enseigne les autres, vous devez être serviteur, il faut inverser la pyramide. Il n'empêche, Dieu, il appelle souvent à des responsabilités d'église des gens qui sont câblés pour être leaders et qui sont câblés pour manipuler les autres. Mais c'est à partir de ceux-là dont il va le faire des serviteurs. Ces gens vont devoir apprendre à fonctionner, à être motivés par d'autres choses que l'hégémonie sur les autres et le contrôle des autres afin d'atteindre des objectifs. Donc tout le monde doit changer. Les personnes spontanées. Attendez, j'en ai sauté un qui est important. Après les leaders, par exemple, ceux qui sont doués pour amener la paix. Vous rappelez la béatitude, heureux ceux qui font œuvre de paix. Il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment appelés par Dieu et doués pour amener la paix là où il y a du conflit. Le risque qu'encourent ces personnes dans la pratique de cette paix, c'est l'évitement. Elles sont parfois tentées par l'évitement de certaines situations parce qu'elles ont peur de devoir gérer le conflit au-delà de la paix qu'elles amènent. Donc elles auront potentiellement une tendance à fuir les questions et les paroles qui fâchent, même quand celles-ci sont nécessaires. Parfois, pour obtenir la paix, il va falloir passer par la guerre, quand c'est nécessaire. La guerre dans le sens où mettre les choses sur la table. Donc, encore une fois, celui qui est appelé à dire des choses que personne n'a envie d'entendre. Les personnes qui sont très spontanées seront souvent tentées par les impulsions qui les habitent. Elles sont spontanées. Donc, par exprimer tout ce qui leur passe par la tête. OK ? Les taiseux, quant à eux, seront tentés de ne jamais rien dire du tout, quelle que soit la situation. Ou alors ils s'exprimeront de façon agressive lorsqu'enfin ils daigneront intégrer le monde des vivants en ouvrant la bouche. Ça existe aussi. Vous voyez, mais c'est tous des péchés qui sont en lien avec notre personnalité. Ceux-là devront donc apprendre à parler pour que l'enfer du silence s'apaise en eux et autour d'eux. Alors que ceux qui parlent beaucoup devront apprendre, vous vous en doutez, à maîtriser leur langue. Si vous avez un doute, relisez l'épître de Jacques, il y a tout un chapitre sur la langue. Ils vont devoir apprendre à maîtriser leur langue de façon que le pire ou le maladroit ne sorte pas de leur bouche. Il y a un proverbe qui dit « celui qui parle peu, pêche peu ». Par évidence, celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Donc taisez-vous parfois si vous êtes un extraverti, quelqu'un qui parle beaucoup, et vous éviterez de pécher. Moi, ça m'arrive de sortir des bêtises. Et après, je regrette. Donc, savoir quelle est votre signature pour vous aider à faire tomber certaines barrières afin de vivre dans le courant de l'esprit. Ça va vous révéler certains de vos problèmes spécifiques. D'accord ? Celui qui est passé à la postérité sous le nom de Saint Benoît, a dirigé une communauté de foi, donc un monastère, et écrit un des plus fameux guides de croissance spirituelle qui s'appelle « La règle de Saint Benoît », disponible dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Pourtant, bien qu'il s'agisse d'une règle, c'est intéressant, il y a introduit de la flexibilité. Par exemple, il explique comment le prieur, donc le supérieur de la communauté, de l'abbaye, doit traiter chaque âme différemment. Et là, je cite notre ami Benoît. Vous devrez cajoler l'un, réprimander l'autre, persuader un troisième, selon la compréhension et le caractère de chacun. C'est pour cette raison qu'il, donc le prieur, doit s'ajuster et s'adapter à tous. La liberté est l'objectif de la croissance. C'est important. Donc faire librement ce que Dieu nous appelle à faire. Pour revenir juste deux secondes sur Saint Benoît, il aurait pu être entraîneur de foot. Les grands entraîneurs de foot, c'est exactement ça qu'ils font. Pour ceux qui s'intéressent un peu, Guardiola, qui entraîne Manchester City, qui est probablement une des meilleures équipes au monde, équipe dans laquelle joue Kevin De Bruyne, notre Kevin national, il a dit, comment est-ce que vous faites pour obtenir le meilleur de vos joueurs? Il dit, ça dépend de son caractère. C'est-à-dire, il dit, par exemple, Kevin, vous avez remarqué, cette saison, il a marqué beaucoup plus de buts. Tout ce que j'ai eu à dire, c'est, Kevin, ce serait bien que tu marques un peu plus cette saison. Et Kevin marque plus. Un autre, je vais devoir le prendre dans mes bras en disant, allez, ça va aller. Hein. Tu as raté deux, trois grosses occasions, mais ça va aller, tu dois te faire confiance. Et puis un autre, il faudra lui dire, tu te rends compte de ce que tu as loupé, je ne veux plus que ça arrive, et ça n'arrivera plus. Ils sont, d'autres, il y a certains, il faut secouer, d'autres, il faut materner, d'autres, il faut simplement montrer la direction. Voilà. Quand on parle de liberté, et Paul avait déjà bien envisagé la problématique, il faut faire très attention de ne pas confondre liberté et auto-indulgence. Je ne suis pas libre de devenir un grand pianiste en regardant la TV et en mangeant des chips. Ça ne marche pas comme ça. Galates 5, 13, notre ami Paul, frères et sœurs, parce que c'était déjà le danger. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté, en Christ, un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Je ne peux pas grandir dans l'esprit si, comme Paul le dit, je fais de la liberté que m'offre l'Esprit Saint un prétexte pour vivre selon les désirs de mon ancienne nature, de ma propre nature, de faire ce que je veux. Et Paul dit ça dans un contexte où les églises de Galatie, Turquie actuelle, sont attaquées par des juifs qui veulent ramener les chrétiens, des chrétiens juifs, qui veulent ramener des chrétiens d'origine païenne à la soumission totale à la loi de Moïse. Faites-vous circoncire, faites les fêtes, gnagnagna. Toute chose que, après la mort, la résurrection de Jésus, est terminée, la liberté chrétienne. Donc, lorsque je suis conscient de mes péchés mignons, je suis gentil en disant ça comme ça, je suis forcément moins vulnérable à leur action. Je sais au moins où est mon ennemi. Alors, un bête exemple, demandez aux soldats qui sont rentrés d'Afghanistan ce qui est vraiment important là-bas. Ils vous diront tous, savoir où se trouvent les mines, c'est la première exigence si on veut revenir en un morceau. C'est le premier truc qu'on leur apprenait. Détecter les mines. Cinquième et dernière question. Importante aussi celle-là. Dans quelle saison de ma vie est-ce que je me trouve ? Parce que la façon dont vous grandissez dépend toujours de la saison spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. Alors, vous savez comme moi que les jeunes arbres ou les jeunes plantes ont besoin d'un tuteur pour pousser droit. On en a ici derrière. Il y a un tuteur ? Je ne sais plus, peu importe. Tuteur, vous voyez, c'est ce qu'on met quand la plante est très jeune ou l'arbre pour qu'il pousse droit. Et une fois que la rectitude est partie, vous pouvez enlever le tuteur, il ne bougera plus. Mais au début, il faut lui mettre un tuteur. C'est une belle image de la vie spirituelle. Je pense qu'au début, nous avons tous besoin d'un tuteur. Autrement dit, d'une aide extérieure. Je vais le dire comme ça, en plus du Saint-Esprit. Pour grandir et pour grandir droit. Pour nous montrer le chemin. Parce qu'on ne sait encore rien de la parole de Dieu, parce qu'on ne sait encore rien de la vie spirituelle, on ne sait rien des écueils qui nous attendent, on ne sait strictement rien, en tout cas en quoi consiste véritablement la vie de prière. Dans beaucoup d'églises, disent, lis ta Bible et prie. Ah, avec ça, on va loin. Quoi. Comment je prie, dans quel cadre, si ça ne marche pas, enfin, etc. Donc il y a beaucoup de nourriture à donner pour que le chrétien ou la chrétienne puisse grandir. Il faut des tuteurs au départ, des gens qui entourent et qui canalisent, qui disent le chemin, parce qu'eux le connaissent déjà. Ça s'appelle des vieux, en fait, dans la vie chrétienne. Mais nous savons aussi que l'encadrement placé en début de vie peut en fait très vite empêcher la croissance des plantes s'il n'est pas retiré. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Si à un moment on ne laisse pas les gens aller avec l'esprit, parce qu'ils ont une certaine maturité, pour faire leur expérience avec Dieu, le risque... Et là aussi, un autre type de risque, c'est que la personne reste toute sa vie dépendante de quelqu'un d'autre ou d'autre chose que l'Esprit-Saint lui-même. Parce qu'encore une fois, au début de la vie chrétienne, nous avons tellement de choses à apprendre. Et de là l'intérêt de grandir. La vie spirituelle, la louange, la prière, la Bible sont autant de choses totalement nouvelles pour un jeune chrétien, un bébé dans la foi. Le drame étant que parfois vous trouvez avec des chrétiens qui ont 30 ans de vie chrétienne et qui sont toujours des bébés. Et quand, c'est quand même terrible quand Jésus regarde son église et qu'il nous voit tous en couche-culotte, quoi. Avec les petits élastiques là, vous voyez. Mais parfois ça arrive. Et ça, inutile de vous dire que c'est un drame, d'abord pour les personnes. Donc, savoir où vous en êtes. En gros, il y a, je pense, trois grandes périodes dans la vie spirituelle. La découverte, l'émerveillement au début de votre conversion. Oh, mais c'est merveilleux! On s'extasie sur un pissenlit. Oh, que c'est beau un pissenlit. Voilà. Si ça marche, s'il y a une progression, parce qu'il y a des démarches à faire, si on veut vraiment suivre le Christ, la deuxième période, c'est le temps dit de la connaissance. On emmagasine de la connaissance biblique, entre autres. On commence à mieux connaître Dieu. Et là, le danger, c'est quoi? La suffisance et l'orgueil. Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi, maintenant, sur la parole de Dieu? Lui, il ne sait même pas trouver ce livre dans la Bible sans regarder devant le numéro de page. Si ce n'est pas honteux, ça c'est le risque. Et la troisième période, c'est la période de la maturité. Vous désespérez de vous-même et vous savez que vous ne savez rien. Voilà, ça vous encourage à arriver au troisième niveau. Mais c'est pourtant comme ça. Ça ne vient pas de moi ces trois périodes. Hein. C'est le pasteur Schweitzer, un ami personnel de Daniel Bourguet, qui a écrit un très bon petit livre là-dessus. Donc votre chemin de croissance ne sera pas exactement le même que celui de votre voisin, il sera unique et sera le vôtre, et il ne sera pas non plus toujours facile. Dieu ne demande jamais rien de facile. Cependant, il est une décision que vous pouvez prendre et qui vous aidera toujours à grandir spirituellement, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Il est temps à présent, pour terminer, d'introduire un peu de tension, vous avez annoncé ça au début, dans ce que nous avons dit aujourd'hui, de peur que si nous ne le faisons pas, la balance va être déséquilibrée. Vous allez peut-être sortir d'ici en vous disant « tout dépend de ma personnalité ». Et à la limite, je peux rester comme je suis puisque je suis unique. Eh bien non! Si Dieu nous aime tel que nous sommes, avec toutes nos différentes couleurs, il nous aime néanmoins trop pour nous laisser comme nous sommes. Il ne s'agit donc pas de nous réjouir d'être introverti ou extraverti, bordélique ou ordonné, mais bien de ce que Dieu fait partie de notre vie et qu'il veut nous changer. Ce n'est donc pas à Dieu à s'adapter à nous, mais bien à nous de changer pour lui et avec son aide. En d'autres termes, ce que vous êtes, votre personnalité, est une indication importante dont il faut tenir compte, mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas la plus importante non plus. Elle est très importante, mais ce n'est pas la plus importante. Je vais prendre un exemple. Henri Nouwen, un prêtre et grand intellectuel, auteur de nombreux livres sur la prière et la vie spirituelle, enseignant dans de grandes universités et séminaires, a vu sa vie totalement bouleversée lorsqu'il a reçu la conviction qu'il devait s'installer au Canada dans une institution catholique qui s'occupait de Manal Manteau. Un grand intellectuel. Prendre soin de Manal Manteau. Qui ne comprennent pas une phrase de trois mots. S'il n'avait tenu compte que de son câblage d'origine pour mener sa vie, il n'aurait jamais entendu la voix de Dieu l'appeler à abandonner son côté cérébral et rigoureux pour revêtir celui du service, de l'originalité et de la dépendance. Et chapeau aussi qu'il ait été jusqu'à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Quitter les pompes des milieux universitaires pour aller, entre guillemets, s'enterrer, devenir un anonyme, sauf pour ces malheureux qui avaient tant besoin de lui, moi je lui tire mon chapeau. Alors si vous voulez apprendre cette petite histoire et comment il a cheminé, je vous conseille la lecture du livre « Le retour du fils prodigue ». Alors, si ça vous intéresse, je l'ai. Donc, si changement il doit y avoir en nous, il faudra évidemment changer aussi l'évidence des choses, changer ce que nous sommes, enfin forcément. Les taiseux devront apprendre à dialoguer, les bavards à se taire, les impulsifs à se contrôler, les peureux à oser, les rêveurs à redescendre sur terre, les exaltés à se calmer, les cérébraux à exprimer leurs émotions, les pingres et les anxieux à donner, et ceux qui n'aiment pas lire, à lire la Bible. Il y a un combat spirituel en nous, et le lieu de cette bataille, c'est votre âme, votre cœur, et grandir, ça se mérite. Donc, Dieu n'améliore pas ce que vous êtes, ce que vous étiez avant de le rencontrer, il veut changer ce que vous êtes. Et c'est bien pour ça que c'est le Christ notre modèle. Et la Bible en parle. Alors, je vous donne une clé. C'est pas la seule, mais c'est pour moi une des plus grandes clés de la vie spirituelle. Et elle nous est révélée dans le psaume 73, un psaume d'Asaph. C'est la clé, une des clés du modèle de changement prôné par notre Seigneur. Voilà ce que dit Asaph au verset 28 du psaume 73. Mon bonheur à moi, écoutez bien, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Point. Alors, bonheur, être heureux, ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Heureux, laid, pop, pop, pop. Alors, ce passage-là, il est dans l'Évangile. Hein. Pour être heureux, proche de Dieu, nous dit Jésus dans cet enseignement du Sermon sur la montagne, il faut avoir un cœur de pauvre, d'homme dépendant de Dieu. Pour être heureux, proche de Dieu, il faut être doux. Pourquoi ? Parce que Dieu l'est. Pour être heureux, proche de Dieu, il ne faut pas craindre de pleurer, de montrer ses larmes, car Dieu pleure aussi. Pour être heureux, proche de Dieu, il faut être un affamé, un assoiffé de justice, parce que Dieu aime la justice. Pour être heureux, proche de Dieu, il faut savoir pardonner, parce que c'est dans la nature de Dieu. Pour être heureux, proche de Dieu, il faut consacrer sa vie à garder son cœur pur de tout péché volontaire et de toute bonne œuvre où se cacherait l'orgueil. Pour être heureux proche de Dieu, il faut aimer la paix et l'offrir aux autres. Pour être heureux proche de Dieu, il faut être prêt à souffrir l'injustice par souci de justice. Êtes-vous heureux de ce bonheur-là ? Désirez-vous ce bonheur-là et rien que celui-là? Alors, la réponse à la première question, êtes-vous heureux de ce bonheur-là? Je vais m'avancer un petit peu. Je pense que pour la plupart d'entre nous, la réponse est non. Mais c'est en fait la réponse à la seconde question qui compte. Désirez-vous ce bonheur-là et rien que celui-là? Parce que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas de ce bonheur-là que nous voulons être heureux, nous ne changerons jamais. Je suis catégorique en disant ça, mais je vous assure que c'est vrai. Nous ne changerons jamais. Simplement parce qu'on ne sera pas sur le chemin. Alors, être humble, être doux, être sensible aux autres, aimer la justice, aimer le coupable et l'accueillir, être pur et aimer cela, aimer la paix et l'offrir en partage, être la victime de l'injustice afin que la justice triomphe. Un homme comme celui-là, dit Jésus, le royaume de Dieu l'attend et il aura la terre en partage. Le royaume est pour lui. Il sera consolé tous les jours de sa vie. Il verra le soleil de justice se lever. On le pardonnera avec empressement. Il verra Dieu. Il sera appelé son fils et le royaume de Dieu lui appartiendra. Le verbe grec épistrophé, convertir, ne signifie-t-il pas, d'ailleurs, faire demi-tour, opérer un renversement à 180 degrés. Se retourner, se détourner pour aller vers Dieu et donc laisser derrière soi celui ou celle que nous étions. Ce n'est donc pas vous le modèle à peindre dans votre cœur, aussi beau paraît-il être, c'est Jésus que le Saint-Esprit veut peindre dans notre cœur, afin que nous devenions enfin la nouvelle version de nous-mêmes. C'est ça l'objectif de la vie spirituelle et de la présence de l'Esprit en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.